C'était, nous dit-on, une grotte ouverte dans le rocher. Au ciel, il y avait des anges qui chantaient, sur terre, de pauvres bergers émerveillés, sur le chemin, des rois en procession à la suite d'une étoile, et dans la grotte, un jeune couple ravi et des langes tout neufs. Un petit homme, ce jour-là, entrait dans notre monde, un verbe sans parole. Un infans, enfant, selon l'étymologie, c'est celui qui ne sait pas parler. Et il fut déposé dans une mangeoire. Cela se passait dans une petite bourgade, Bethléem, dont le nom signifie en hébreu « la maison du pain ». Aujourd'hui, 30 ans plus tard, une autre grotte est ouverte dans le rocher. Au ciel et sur la terre, tous les champs se sont tus, les rues sont vides, le silence s'est étendu partout, sur les lèvres et dans les cœurs. Les autorités du temple se sont retirées pour préparer leur grand sabbat, et le procurateur de Judée espère, après ces jours d'agitation, avoir enfin la paix. Silence. Où est Dieu? Peut-on même encore le chercher? Devant la grotte, point de moutons ni de bergers. Tous les disciples éloignés dans la peur sont allés se cacher. Il n'en reste que deux, les plus vieux, les moins exposés, pour accomplir les démarches administratives et hâter le rituel funéraire. Ils s'appellent Joseph d'Arimathie et Nicodème. Dans le ciel, plus d'étoiles, mais des ténèbres sur toute la terre. Pour envelopper le corps, non plus de l'ange, mais un linceul. Nu, il était entré dans le monde, nu, il est couché sur la pierre. Sans cri, le Fils de l'homme était entré dans le monde, et c'est dans un assourdissant silence que le Fils de Dieu retourne à son Père. Où est Dieu? Où sont les hommes? Aucune voix ne s'élève pour répondre. Le dernier verbe prononcé par le Verbe sur la croix a été « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit son esprit. Le corps par la suite a été descendu de la potence. Sa mère, une dernière fois, s'est penchée sur son petit. Elle pouvait difficilement reconnaître son fils. Dans ce cadavre désarticulé, alors, à proximité, le rocher s'ouvrit pour offrir un tombeau neuf. Puis la lourde pierre fut roulée sur l'abîme des morts, sur l'abîme des cœurs, saisis par le silence sépulcral des abandonnés. Dans la maison de la ville toute proche, les lumières s'allumaient pour le plus solennel de tous les sabbats de l'année. Le même silence gommait aussi, tout à fait cessante, les événements de la journée. Les familles devaient veiller soigneusement à l'accomplissement d'un rituel sacré. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an, égorgé entre les deux soirs. C'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de Yahvé. Mais dans ce silence, comme dans cette agitation religieuse, s'élève une question. Où donc est Dieu ? Mais aussi bien, où n'est-il pas? Sur le retable d'Isenheim, le peintre Matthias Grünewald accentue sur fond de ténèbres le doigt tortueux de Jean-Baptiste montrant l'agneau de Dieu, le Christ immolé. Dès ce jour-là, Pâques n'est plus dans la Pâque. Le sabbat n'est plus au jour du sabbat. Le temple n'est plus dans Jérusalem. La vie n'est plus dans la vie qui meurt. Tout est autrement, tout est ailleurs, tout est ici dans cette fente du rocher, dans cette grotte où repose maintenant un corps inerte, où tout repose dans le silence d'un monde à venir. Tout est ici et maintenant, mais la vraie vie est ailleurs. Où donc est Dieu ? Dans la beauté du visage de l'enfant qui s'endort, mais aussi dans la souffrance de l'innocence broyée, dans la lumière du jour, mais aussi dans l'encre de la nuit. Qui oserait reconnaître Dieu dans cette victime écartelée, hier suspendue à la croix dans un carrefour, comme un épouvantail dans un champ de concombres, semblable aux lépreux dont on se détourne? Et pourtant, partout, et toujours présent, il remplit tout, et toute plénitude habite en lui, jusqu'aux abîmes de l'abandon et de la mort. Partout, sauf là où le cœur se refuse volontairement à aimer. Car il n'y a pas d'autre enfer que là où est rejeté l'amour librement offert. Les anciens parlent dans leur langage de la descente de Jésus aux enfers. Par cette expression, ils évoquent un autre mystère, la visite du Christ jusque dans les obscurités les plus impénétrables de nos cœurs, les méandres les plus lointains de notre histoire. Dans le silence de cette journée, laissons le regard de Jésus descendre aux profondeurs de nos cœurs, avec ce même regard qu'il a posé sur chacun de ses disciples, sur Jean, sur Judas, sur Pierre, sur le jeune homme riche, sur la femme adultère. Son regard accueille en chacun de nous ce qu'il y a de plus trouble, de plus infernal, de plus généreux et parfois de plus mort, pour y apporter sa lumière et sa vie. Lui seul peut regarder la mort des innocents sans détourner son visage, car il fut, à l'heure de sa propre mort, cet homme qui intercédait pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'un cœur charitable, se demandait Isaac le Syrien, un saint évêque du 7e siècle dans le Proche-Orient. Il répondait, c'est un cœur qui s'enflamme de charité pour la création tout entière, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toutes les créatures. Un tel homme ne cesse de prier aussi pour les ennemis de la vérité, pour ceux qui lui font du mal, afin qu'il soit sauvé et purifié. Il prie même pour les reptiles, mu par cette pitié qui s'éveille dans le cœur de ceux qui s'unissent à Dieu. Ainsi, dans le silence des rochers, le cœur de Dieu bat pour toutes les victimes, comme pour les tortionnaires, et même pour les serpents. Où donc est Dieu dans nos silences, dans son silence? Nulle autre part qu'au-dedans de moi, au-dedans de chacun de nous.